Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Daniel Darieux, cette drôle de gosse, avec Clara Laurent et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, initial DD de la jeune femme moderne, impertinente et délurée des années 30, à la mamie dans le cou, voire la vieille dame tout à fait indigne des années 2000. Daniel Darieux a fini par incarner une sorte de mémoire vivante du cinéma français parlant, 80 ans de carrière, du bal en 1931 à pièces montées en 2010, 103 films. Elle a attendu d'avoir 100 ans pour partir un 17 octobre 2017, mais elle vit encore et pas seulement dans le cœur des dariolâtres comme Paul Vecchiali ou Dominique Delouche, ses plus grands fans. Elle vit sur grand écran à l'occasion de rétrospectives en ce moment à la Cinémathèque de Toulouse et bientôt à celle de Nice, ou dans celle que la Cinémathèque française consacre à Max Ophüls, qui fit d'elle son actrice fétiche dans les années 50. Du même Ophüls est ressorti mercredi en salle La Ronde, où elle emporte tout le temps d'une séquence, l'occasion de redécouvrir l'oxymore incarné que fut Daniel Darieux, actrice de tous les paradoxes, la plus américaine des actrices françaises, seul équivalent français de star de la screwball comedy comme Catherine Hepburn ou Irene Dunne, fut aussi celle qui résista aux tentatives hollywoodiennes de la normaliser. Belle et comique, sexy et burlesque, elle fut dans les années 30 ce mélange détonnant d'ingénuité et de dévergondage, d'immoralité candide et de sincérité friponne, cette synthèse improbable d'une vraie jeune fille pure et virginale, d'une jeune femme redoutablement intelligente et pleine de répondants, et d'un véritable sex-symbole. Et en même temps, Daniel Darieux avait tellement le sens du comique qu'elle excellait dans le drame, dira d'elle Max Ophüls. Nous vous invitons donc à une grande traversée du cinéma français, ses chefs-d'œuvre et ses films moins bons, mais tous témoins de leur époque et de sa façon de représenter les femmes, avec la biographe de Dédé, Clara Laurent et Ntebin, qui, selon un principe de grand écart cher à Plan Large, évoquera en fin d'émission la réédition augmentée d'un livre d'entretien avec Brian De Palma, accompagné, ce qui ne gâte rien, de 6 de ses films majeurs.
Que notre réalisatrice, Manina, la voix fait peut-être un peu âgée à présent, et pourtant c'est celle d'une toute jeune fille, d'une adolescente de 13 ans et demi, hein, l'âge de Daniel Darieux quand elle tourne son premier film Le Bal, réalisé en France par un cinéaste autrichien habitué des studios de la UEFA de Berlin, Wilhelm Thiele. À l'époque, Darieux porte une coupe de cheveux courte, c'est une petite garçonne des années 20 en quelque sorte, et elle joue dans cette adaptation d'un roman d'Irène Némirovski, une adolescente, ça tombe bien, qui va se venger, Antoinette Kampff. Et alors, on peut être ému aujourd'hui de découvrir les premiers pas un peu empruntés, il faut le dire, d'une future grande. Mais à l'époque, ses contemporains louent son naturel. Qu'est-ce qu'apporte la très jeune Danielle Darrieux dans un cinéma français parlant qui est en train de s'inventer, hein? On sort à peine du muet, Clara Laurent.
Mais je crois que en fait les contemporains du film en 31 la trouvent effectivement très spontanée, très naturelle. Alors c'est une notion finalement qui est toute relative. C'est vrai qu'aujourd'hui lorsqu'on regarde le film, lorsqu'elle joint les mains pour exprimer comme ça ses émotions, ça peut paraître un petit peu forcé. Mais à l'époque, ça tranchait quand même avec un jeu très théâtral qui était celui de beaucoup d'acteurs qui avaient été qui avait été choisi pour alimenter en fait ce nouveau cinéma parlant, parce que il fallait effectivement trouver des acteurs qui savaient bien placer leur voix, et donc beaucoup venaient du théâtre et avaient un jeu effectivement un petit peu déclamatoire. Donc elle paraît effectivement très spontanée et naturelle.
Alors, il est bon de se souvenir de ses débuts, parce que on a l'image de Danielle Darrieux comme ça, monument du cinéma français, mais au début c'est une des premières enfants stars, hein. Vous rappelez dans votre livre que Shirley Temple n'apparaît à Hollywood qu'en 1932, c'est déjà un élément de modernité étonnant, une gamine qui va devenir très très vite une star.
Oui, et en vérité, c'est une adolescente, c'est-à-dire que Shirley Temple, c'est une petite fille, il y a aussi le kid, hein, c'était un petit garçon. Là, c'est une adolescente. Il n'y a pas beaucoup de personnages d'adolescentes, en fait, ou d'adolescents dans le cinéma des années 30. Donc, effectivement, c'est un petit peu la Sophie Marceau des années 30. À ce moment-là, elle va vite grandir, à vrai dire. C'est-à-dire que dès son deuxième film, elle est déjà une jeune fille.
Voilà, elle devient un objet de désir pour les hommes très rapidement dans ses films.
Dans Coxy Grol, donc son deuxième film, elle est déjà effectivement courtisée par des hommes plus mûrs. Et d'ailleurs, elle a aussi une amourette avec un acteur qui était Raymond Gall, et elle a même un enfant dès son deuxième film. Donc très tôt, effectivement, elle incarne des jeunes femmes, et puis elle fait très vite jeune femme. Enfin, les actrices dans les années 30 paraissent très vite femmes. Quand on pense à Michèle Morgan, qui n'a que 17 ans dans son premier film, elle a l'air d'en avoir 25, donc Darrieux n'échappe pas à ça.
Alors, il ne faut pas toujours écouter Danielle Darrieux. Danielle Darrieux, quand elle revient sur sa filmographie, elle écrit tout un livre de films commentés, où souvent elle est assez dure avec ses premiers films. Elle va dire qu'on lui faisait toujours jouer les ingénues un peu bébêtes. Quand on revoit les films, parce qu'elle ne les revoyait pas, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas une idée très claire de sa propre filmographie, elle joue des rôles beaucoup plus intéressants. Anne Thébine, c'est la jeune fille un peu futée, débrouillarde, un peu garçonne aussi.
Oui, c'est la jeune première idéale, en fait. Qui est en train de s'inventer dans le cinéma parlant de ces années-là. Mais c'est étonnant ce que vous avez dit sur son âge, parce que moi qui ai un grand âge, j'ai quand même le privilège sur vous d'avoir vu Danielle Darrieux au théâtre dans son dernier rôle de jeune première. C'était en 1970, c'était 40 ans après le bal. C'était une reprise de Domino de Marcel Achard, qui était mon parrain. Donc, et c'est la même Darrieux. On avait l'impression que j'allais voir à la Cinémathèque dans des très vieux films, qui étaient consacrés par les gens de la Nouvelle Vague, alors qu'ils rejetaient les films dans lesquels elles apparaissaient, sauf ceux d'Ophuls. Et puis ensuite, elle a passé les ans, elle a pris de l'âge, mais sans que ça ne change en rien, en fait, sa persona d'actrice. C'est quand même... c'est époustouflant. Je crois que c'est unique au monde.
Ce qui est très frappant aussi quand on regarde un peu en détail sa filmographie des années 30, il y a de futurs grands cinéastes américains qui sont de passage à Paris parce qu'ils fuient le régime nazi. Il y a Billy Wilder, Robert Siodmak, Kurt Bernhardt, avant qu'il s'appelle Curtis Bernhardt, qui le font tourner. Et surtout, on commence, et là c'est l'effet du star system presque à l'américaine, on commence à jouer avec une sorte de confusion entre l'actrice et le personnage. Quand elle va jouer dans Dédé de René Guissard, bon, c'est une opérette assez connue, mais c'est quand même Dédé, Danielle Darrieux. Quand elle joue Quel drôle de gosse, comme je l'appelais en chapeau tout à l'heure, de Léo Janon, on est toujours sur quelque chose, voilà, qui trouble le rapport entre l'actrice et le personnage que vous appelez la persona de Danielle Darrieux. Clara Laurent.
Oui, en fait, donc Quel drôle de gosse, c'est un scénario d'Yves Mirande. Et Yves Mirande, donc était un auteur dramatique, scénariste, en fait, avait observé Daniel Darieux sur le tournage de La crise est finie de Robert Siodmak. Robert Siodmak était assez époustouflé par ce que faisait Darieux sur le film. C'est une espèce de comédie musicale à l'américaine. Et donc, il en parlait autour de lui. Et Yves Mirand est venu regarder ce phénomène Darieux. Et Darieux raconte, c'est dans les années 40 qu'elle le raconte, Yves Mirand est venu la voir en lui disant « J'ai un sujet qui me trotte dans la tête. Mon idée était un petit peu floue. Et là, je vous ai regardé. Ça y est, cette idée s'est fixée. » Et donc, il a écrit « Quel drôle de gosse ». Donc, « Quel drôle de gosse », ce film de Léo Johannon, qui va sortir en 35, c'est vraiment un film qui est modelé sur qui était Darieux dans la vie. Et c'était une jeune femme impétueuse, insolente, impertinente, assez fantasque, qui dans la presse faisait des déclarations assez étonnantes, enfin pour les années 30. Et donc effectivement, le public à ce moment-là va confondre le personnage et l'actrice. Elle en avait conscience à ce moment-là, et je crois que c'est ça qui en a fait une star. Lorsque effectivement la femme qui est perçue dans la vie et le personnage coïncident, c'est ça qui fait la star.
Et maintenant, assez plaisanté. Naturellement, je ne peux vous défendre que si je suis très au courant de ce que vous avez fait. Un défenseur, c'est un peu un confesseur. Dites-moi toute la vérité.
La vérité? Quelle vérité?
L'histoire du carambouillage.
Je veux bien vous rendre service, mais n'exagérez pas la discrétion, hein?
Mais enfin, c'est mon métier.
J'ai accepté de remettre ma cause entre vos mains uniquement pour vous éviter un mariage désagréable. Mais de là, non!
Mais si je vous fais acquitter...
Je vous ai déjà dit que je voulais être condamné au maximum.
Oh... Oh, bah vous êtes unique alors.
Bah peut-être. En tout cas, je vous prie de ne pas vous mêler de ce qui vous regarde pas. Oh, et puis, que je vous dise la vérité ou pas, je l'aurai quand même mon maximum.
Et pourquoi, monsieur?
Tout simplement parce que vous n'êtes qu'une débutante.
Ah, je ne suis qu'une débutante. Bon. Bah c'est ce que nous allons voir.
Voilà, c'est un extrait d'un mauvais garçon qui appartient à une série de comédies assez loufoques, mais qui sont certainement l'équivalent de ce qu'on peut trouver en France, de la screwball comédie à l'américaine, ou en tout cas, Daniel Darieux joue comme ça, c'est-à-dire que c'est un personnage, comme vous l'avez dit, impétueux, qui a une façon très musicale de se déplacer, on dirait qu'elle danse presque tout le temps, et qui vont jouer ce personnage paradoxal, qui est la jeune fille qui veut s'émanciper, ici elle veut devenir avocate, son père va organiser un complot pour qu'elle finisse quand même par épouser le garçon qui lui destinée, et on a toujours ce personnage donc qui est très très moderne, mais en même temps, je le disais tout à l'heure, c'est la vraie jeune fille, la morale puritaine finit toujours par être sauve, et finalement c'est un personnage très consensuel, Daniel Darieux.
Oui, enfin, consensuel. C'est-à-dire que les scénarios sont toujours fabriqués de telle façon qu'à la fin, tout rentre dans l'ordre. Mais ça arrive souvent comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que dans Un mauvais garçon, le personnage joué par Henri Garra, qui est un faux apache, un faux bandit, qui est en vérité un fils de famille et que le père de Darieux, joué par Alerme, voudrait que Darieux épouse. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, cette histoire. En vérité, pendant tout le film, Darieux se montre comme une jeune femme très très forte qui cherche à s'émanciper, qui cherche à s'affranchir, et elle a une telle vitalité, un jeu tellement impétueux, que c'est ça qui reste, je pense, dans l'esprit des spectateurs.
Oui, parce que Darieux a un tempérament comique incroyable. Comment est-ce que vous analyseriez sa capacité comique, et à la fois physique et surtout un jeu avec le visage qui est extrêmement étonnant? Elle a une moue boudeuse, par exemple, qui deviendra célèbre bien avant celle de Brigitte Bardot.
Oui, le visage, vous avez dit le corps, la voix, évidemment. Moi, je me souviens, c'est d'un acteur qui n'a rien à voir, mais je me souviens d'une interview de Kirk Douglas qui disait « Quand je joue un personnage fort, je cherche en lui ce qu'il y a de faible. Et quand je joue un personnage faible, je cherche en lui ce qu'il y a de fort. » Eh bien, pour Darieux, c'est comme si elle faisait la même chose entre la joie et la tristesse. C'est-à-dire que quand elle joue une jeune fille délurée, etc., il y a toujours un fond de mélancolie, quelque part, voire d'ironie. Et puis, quand elle joue un personnage tragique, on sent qu'il y a aussi une distance qu'elle met comme ça. Donc, c'est ce qui lui a permis, mais je crois, de façon pas du tout volontaire et délibérée, de construire une façon d'exercer son métier tout à fait exceptionnelle, de rôle en rôle. Et je crois que, alors évidemment, elle a trouvé des gens pour la conseiller, il y a eu Henri Decoing, il y a eu ensuite Max Ophüls, mais je crois qu'elle avait en elle cette intelligence absolue d'actrice qui permet cette richesse.
Oui, parce qu'elle sait ne pas en faire trop. On peut même être frappé par un moment, ce que vous avez relevé, Clara Laurent, par son underplaying, pour le dire comme les Américains, c'est-à-dire son sous-jeu, sa façon de ne faire que manifester une présence.
Oui, en cela, c'est peut-être la plus américaine des actrices françaises des années 30. Moi, en fait, lorsque je me suis intéressée à Darieux, lorsque j'ai découvert Battement de cœur, dont on va parler après. Et je connaissais du cinéma des années 30 essentiellement les films de Renoir, de Carnet, de Duvivier, enfin les plus connus, ceux qu'on montre dans les ciné-clubs, dans les cinémathèques. Et j'étais frappée par tous ces personnages féminins qui étaient très schématiques. Enfin, c'était la jeune fille en fleurs ou la gare, ou la Virago, et les actrices qui jouaient ça avaient un jeu quand même assez appuyé. Tandis que Darieux, effectivement, a un jeu d'emblée très atténué à l'américaine. Donc en cela, effectivement, elle tranche dans les années 30.
Et pourtant, il y a tout de même un passage presque obligé dans un film de Daniel Darieux, c'est la crise de nerfs.
Monsieur le général, laissez-moi partir. Laissez-moi partir, il le faut, j'ai un rendez-vous urgent. Bon, je m'incline devant la force. Mais je vous préviens que ça ne se passera pas comme ça. Je me plaindrai au monsieur au parapluie. Je veux même bien savoir si on va me laisser moisir longtemps ici. Oh, c'est pas que votre conversation m'ennuie, mais je commence à trouver le temps long. Alors vous êtes tous muets dans votre pays. Eh ben, on doit s'y amuser. Si vous ne me répondez pas, je vous préviens que je crie, que je hurle. Je vais compter jusqu'à 3. 1. 2. 2,5. Attention. 3.
Ce n'est rien, continuons.
Le lion de la Metro-Goldwyn-Mayer peut aller se rhabiller ses battements de cœur. Vous l'annonciez, Clara Laurent, d'Henri Decoing, en 1940. Personnage d'orpheline formé à l'école des voleurs et qui, dans ses multiples talents, apprend aux gens à siffler, par exemple, parce qu'elle siffle comme personne. Alors, Henri Decoing, c'est son mari à l'époque, c'est son réalisateur. Je crois qu'ils vont faire 9 films ensemble au total. Alors, ici et là, notamment quand Daniel Darieux est morte, on a parlé de Decoing comme son premier Pygmalion, l'homme qui lui a tout appris. Quand on lit votre biographie, Clara Laurent, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que quand Decoing commence à travailler avec Daniel Darieux, elle a déjà une longue carrière derrière elle, alors que lui n'est qu'un réalisateur débutant. Quand Daniel Darieux va aller à Hollywood, il va devenir le monsieur Darieux qui attend dans son coin que Madame tourne, tout en contrôlant un peu les scénarios qu'on lui offre. C'est plus une collaboration fructueuse qui se joue entre eux plutôt qu'un rapport de créature à créateur.
Oui, alors c'est vrai que comme ils ont quand même 27 ans d'écart, ça a pu accréditer l'idée qu'il y avait un Pygmalion et une créature. Mais comme vous l'avez dit, lorsque Decoing rencontre Darieux, lui n'a réalisé que 3 films qui n'ont pas eu un énorme retentissement. Darieux, elle a déjà tourné Quel drôle de gosse, donc c'est déjà une vedette de tout premier plan. Et à partir du moment où ils se rencontrent, alors ils vont se rencontrer en 34, et puis mais quand véritablement ils vont se marier, Decoing ne va plus faire que des films avec Darieux. Et de toute évidence, tous ces films vont être organisés autour de la personnalité de sa femme. Je pense qu'effectivement, il est inspiré par Darieux. Darieux va offrir effectivement au film de Decoing toute son énergie de jeune femme moderne. Donc c'est effectivement, oui, une collaboration fructueuse.
Ouais. Et à l'inverse, est-ce que Henri Decoing contribue à transformer un peu le personnage, la persona, comme on dit depuis le début, de Daniel Darieux, ou il se contente d'exploiter ce qui a été fait avant Entebbe?
Il ne faut pas oublier que Darieux, elle est quand même toute jeune, c'est une adolescente lorsqu'elle rencontre Decoing, et elle évolue, mais elle évolue parce que c'est une adolescente qui devient une jeune femme et qui en même temps doit apprendre à gérer son statut de star, puis de femmes mariées, tout ça va très très vite. Et donc, je pense que c'est une série de facteurs qui font que Dario va devenir ce qu'elle est, et elle est aussi, je pense, une sorte, pour un metteur en scène qui sait jouer de ce Stradivarius, elle est l'instrument idéal, mais je pense pas que le metteur en scène a créé le Stradivarius. Il voit ce qu'il peut en tirer, et Dario va s'épanouir, mais en tant que qu'être humain, qu'actrice qui prend un peu d'âge et de maturité en même temps. Et ça va être une conjonction merveilleuse entre l'interprète et le chef d'orchestre.
Alors, résultat, à la fin des années 30, Daniel Dario est au sommet, hein, vraiment, de son statut de star. C'est l'actrice la mieux payée du cinéma français. Il y a déjà des articles à l'époque qui se plaignent du salaire des comédiens. Et elle est en haut. C'est aussi une chanteuse à succès. Hein. Chacun des airs qu'elle chante dans ses films est repris en disque. Battement de cœur va sortir sur les écrans français le 3 février 1940. On est en pleine drôle de guerre. Et il connaît un succès populaire retentissant, aussi bien pendant la drôle de guerre que dans la France occupée de 1940. En août 41, le film est encore à l'affiche. Il en est à sa 52e semaine d'exclusivité. Vous le rappelez, Laurent, dans votre livre, Daniel Dario va tourner avec Henri Decoing Premier Rendez-vous, qui reprend largement les recettes de Battement de cœur, presque le même personnage. Le film va faire un nouveau triomphe. Le public ne sait sans doute pas que le film est produit par des capitaux allemands. C'est le premier film sorti en France par la Continental Film. On en parlait avec vous, Ntebin, en septembre, et je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée à la firme d'Alfred Greven pour percevoir, comprendre un peu toutes les complexités de cette période à la fois sombre pour la France et très heureuse pour son cinéma. Et puis, en mars 1942, Daniel Dario fait un voyage qui lui sera beaucoup reproché, mais pas tout de suite.
Sous le signe de l'art, des vedettes de l'écran s'apprêtent à partir pour l'Allemagne. À la gare de l'Est, on reconnaît Albert Préjean, Daniel Darieux, Suzy Delair, Junie Astor, Viviane Romance, répondant à l'invitation du docteur Karl Fröhlich, président de la Corporation du cinéma allemand, ces artistes seront pendant 12 jours les hôtes de leurs camarades des studios de Vienne, de Munich et de Berlin.
Voilà, c'est le voyage de la honte du cinéma français. Albert Préjean, Suzy Delair, Viviane Romance, Junie Astor et donc Daniel Dario vont visiter leurs confrères berlinois, une opération de propagande en faveur de la collaboration qui ne va pas nuire immédiatement à la carrière de Dario. D'ailleurs, elle jouera des résistantes sans problème dans l'après-guerre, mais qui va faire d'elle un symbole de la collaboration beaucoup plus tard, en 1969, quand Marcel Ophuls ressort cette archive pour le chagrin et la pitié. Il l'insère entre une actualité sur la projection du Juif Sus et sur une visite de Heydrich à Paris. Donc ça fait un effet évidemment désastreux. Godard lui aussi fera allusion à ce voyage dans ses histoires du cinéma, hein, en rappelant que pendant ce temps-là, d'autres trains emmenaient des pauvres gens vers une destination beaucoup plus funeste. Comment ces images qu'on redécouvre donc à la fin des années 60, au début des années 70, vont marquer l'image de Daniel Dario, Clara Laurent?
Bah, c'est certain que ça va avoir un effet désastreux, et ce qui est terrible, c'est que en fait le voyage est montré sans être véritablement expliqué par un commentaire off. Bon, c'est le principe de ce documentaire qui par ailleurs a énormément de vertus, puisque il va effectivement montrer que la France n'a pas été ce pays de résistants massifs, mais c'est vrai que en fait pourquoi a-t-elle fait ce voyage? Elle l'a fait parce que elle a subi des pressions, comme les autres acteurs d'ailleurs qui font partie du voyage. Des pressions d'Alfred Greven, donc le directeur de la Continentale. Ce voyage était voulu par Goebbels. Il s'agissait de montrer que le cinéma français, le cinéma allemand étaient main dans la main. Et si elle a accepté de le faire, c'est parce que à ce moment-là, donc elle avait divorcé de Decoing, et son nouvel amoureux était Porfirio Rubirosa. C'était un diplomate dominicain.
Playboy international, en même temps.
Voilà, Casanova notoire. Et il avait été interné en Allemagne parce que, déjà, étant dominicain, comme la République dominicaine était l'allié des Américains, il était effectivement déjà suspect. Et en plus, il n'était pas très diplomate en vérité. Il avait tendance à dire du mal des nazis. Donc, il s'est retrouvé effectivement interné à côté de Francfort. Et donc, Daniel Darieux était évidemment très, très inquiète. Et Greven lui a fait miroiter que si elle participait à ce voyage, elle pourrait le voir, elle pourrait lui rendre visite. Donc, elle a accepté ce voyage pour ces raisons-là. Elle n'a pas continué d'ailleurs le voyage, contrairement à ses comparses.
Elle n'est pas allée à Munich ni à Vienne.
Voilà, contrairement à ce que disent d'ailleurs des actualités de l'époque, qui cherchent à faire croire qu'elle y est toujours, parce que c'est la plus grande star en fait du voyage. Donc, Greven a tenu promesse, puisqu'elle a pu effectivement aller voir Ruby Rosa, qui finalement a pu être libérée. Et à ce moment-là, elle s'est mariée avec lui à Vichy, et elle n'a plus tourné ensuite.
Oui, elle ne va faire que 3 films pendant l'occupation, hein, tous pour la Continentale. Ensuite, elle va partir en exil intérieur à Megève. Elle va s'enfuir avec des faux papiers. Enfin, c'est tout à fait rocambolesque, cette histoire. Julien Duvivier va jouer assez perversement avec cette histoire, avant même donc que l'archive ressurgisse. Hein. C'est dans Marie-Octobre, c'est en 1959. Il organise une réunion d'anciens résistants, voilà, qui se déchirent pour savoir qui les a trahis. Et sauf que les comédiens, tous, sauf Lino Ventura et Paul Gers, sont tous des comédiens qui ont travaillé pendant l'occupation. Il y a cette scène assez étonnante où quelqu'un va jouer au piano. Est-ce que vous vous souvenez de ce vieil air qu'on chantait pendant l'occupation?
Et
c'est la chanson de Premier Rendez-vous. Et Daniel Darieux, le personnage de Daniel Darieux, dit non, ça ne me dit rien. Enfin, résultat, Daniel Darieux va passer sans encombre la libération, d'autant que la personne qui s'occupe de son dossier au comité d'épuration, c'est Henri Decoing. Donc ça tombe bien, mais elle passe quand même ce qu'elle va appeler une traversée du désert dans l'après-guerre, 45-49. Elle ne tourne que 7 films, ce qui est déjà pas mal, mais comparé à ce qu'elle faisait avant. Cela dit, quand vous regardez ces films, Clara Laurent, vous constatez que la traversée du désert n'est pas si aride que ça.
Non, parce que, alors, elle-même, effectivement, c'est difficile pour elle en 1945, parce qu'elle n'est plus la star numéro 1, puisque ça fait 3 ans qu'elle ne joue plus. C'est vrai qu'une Micheline Prel, par exemple, qui joue dans Boule de Suif, puis qui enchaîne avec Le Diable au corps, ou bien Michel Morgan qui joue dans le film de Delannoy, s'en sortent mieux dans l'immédiate après-guerre. Mais en vérité, Daniel Darieux, elle joue dans une comédie de Marcel Lherbier très enlevée, Au petit bonheur. Elle enchaîne avec un film de Raymond Bernard, Adieu chérie. Elle va faire des grosses productions, par exemple ce film de Pierre Billon sur un scénario de Cocteau, qui est une adaptation de Victor Hugo, qui est une grosse production avec Jean Marais. Un autre film qui va faire beaucoup parler à l'époque, qui est Bethsabée, et qui attire énormément de spectateurs. Donc c'est pas une véritable traversée du désert en vérité, mais c'est une période très difficile pour elle sur un plan personnel, parce qu'elle se sépare de Ruby Rosa et qu'elle a des amours assez compliqués. Elle a une histoire avec un des acteurs de Bethsabée qui ne dure que 6 mois. La presse, ça scandale, va s'emparer de cette histoire, donc elle va en vérité subir les paparazzi de l'époque. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle en parle aussi comme ça. Et il va falloir attendre autant Lara et Occupe-toi d'Amélie en 49 pour qu'elle retrouve peut-être un rôle à sa mesure, un rôle génial. Et à ce moment-là, effectivement, elle est à deux doigts d'avoir le prix d'interprétation au Festival de Cannes. C'est Isa Miranda qui va lui souffler. Mais elle va revenir après au premier plan à l'orée des années 50.
Voilà, ce film est celui de ma résurrection, hein, dira-t-elle, de Occupe-toi d'Amélie de Claude Autant-Lara. Toujours est-il que l'image de Daniel Darieux a évolué. Et ce n'est plus tout à fait la vraie jeune fille des années 30.
Tu vas encore te moquer de moi, mais tu te souviens, pendant notre voyage de noces, je t'avais demandé d'attendre.
Attendre quoi?
François, ça t'ennuierait que nous ayons un enfant dès maintenant?
Ah, c'est ça que t'appelles s'y mettre, toi?
Bon, sois grossier si tu veux, ça ne change rien.
Eh ben, tu m'excuseras pour aujourd'hui, mais j'ai un train à prendre.
Tu ne veux pas?
Tu tiens absolument? Bon, allons-y, tout de suite, allez!
Ce n'est pas pour te gêner. Après tout, c'est assez dans ton style. Tu n'auras qu'à penser à Madame Flamand ou aux autres. Tu as sûrement l'habitude.
Non, il ne sera pas dit que je n'aurai pas tout essayé. Toi, t'as une solution qui est celle d'une folle, mais moi, j'en ai une autre, qui est raisonnable et qui a réussi quelquefois. Regarde-moi.
Tu ne veux pas? Oh, tu es immonde.
Tu t'imagines vraiment que c'est une solution? Hein? Qu'est-ce que tu espères?
plus grand-chose, François.
Alors à quoi bon?
Mais j'avais cru vraiment que c'était une solution. C'est l'acte suivant, voilà tout.
Une scène tout à fait tragique pour le coup entre Daniel Darieux, bébé, et Jean Gabin. François, c'est la vérité sur Bébé d'Ange, encore Henri Decoin. Et là, une sacrée évolution. C'est intéressant d'ailleurs qu'elle joue avec Gabin dans ce film parce qu'elle suit, Ntebine, d'une certaine façon, la même évolution que Jean Gabin. Ses rôles sont bourgeoises, son jeu devient plus hiératique et le tragique arrive.
Absolument. Et puis, c'est étonnant parce que évidemment ils n'ont pas le même âge. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Et ils ont des trajectoires finalement complètement différentes puisque lui est parti à Hollywood, il est revenu, elle est restée. Et tous les deux vont se retrouver dans une période que eux-mêmes, par la suite, dénigreront un peu. Gabin a horreur de jouer tous ces rôles de mari cocu, qui se font humilier par des femmes, de plus en plus jeunes d'ailleurs. Il déteste ça, ça ira jusqu'à la Brigitte Bardot dans le cas de Malheur. Mais par contre, pour Darieux, il va s'opérer presque la chose inverse, c'est-à-dire que va naître une nouvelle comment dire, potentialité dans le jeu de Darieux. Et alors, c'est étonnant d'écouter tous ces extraits sans les voir, parce que c'est là qu'on perçoit la richesse tonale de la voix de Darieux, combien musicale est le rythme avec lequel elle construit ses personnages. Et même sans rien savoir de l'histoire, en écoutant cet extrait, on prend tout de suite le parti de Daniel Darieux, alors que ça pourrait être un rôle de femme comme il y en a d'horribles dans, je pense notamment au film d'Allégret après-guerre, enfin c'est les films noirs où tout le monde est très méchant, où la société bourgeoise craquelle, etc. Et ben là, il y a quand même une chose qui est beaucoup plus sensible et complexe que ça.
D'autant qu'il y a un hiatus étonnant à ce moment-là, contrairement aux années 30 où on jouait sur son image publique, là il va y avoir une vraie contradiction entre le personnage qu'elle affiche quand elle est dans les médias, elle y est assez peu, de la femme simple, retirée à la campagne, menant une vie tout à fait maritale et normale, cachant son mari d'ailleurs, elle a appris de ce qui s'était passé auparavant, et ces personnages extrêmement complexes, sophistiqués, souffrants, retors, qu'elle va jouer dans les années 50, qui sont des années très très fastes pour Daniel Darieux, Clara Laurent.
Oui, des années fastes où effectivement elle va retrouver des grands rôles. Donc dans, j'ai parlé d'Autant Lara qui lui offre un autre rôle de premier plan dans Le Rouge et le Noir. Dans ce film donc de Decoin, alors c'est très intéressant parce que Decoin est son ex-mari et il lui offre un rôle d'empoisonneuse. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le film, elle a quand même empoisonné Gabin. Alors quand on entend effectivement l'extrait, on comprend peut-être pourquoi elle a fini par l'empoisonner. C'est un film passionnant, La vérité sur Bébé d'Ange, parce que par rapport aux films que Ntebine a évoqués, qui sont ces films du réalisme psychologique très noir, où les femmes sont toutes des garces, dans le film de Decoin, elle a certes empoisonné son mari,
mais elle
apparaît en tout cas comme une révoltée. C'est-à-dire que Gabin l'a tuée en fait psychiquement, elle est comme une espèce de morte vivante dans le film, et donc c'est oui une espèce de révolte, certes désespérée, et après elle va vers la mort, enfin il n'y a aucun espoir dans le film. Et donc c'est vraiment, et ce film de Decoin est vraiment une espèce de réquisitoire contre le couple bourgeois des années 50. Et après, pour répondre après à votre question, elle va effectivement avoir une filmographie exceptionnelle dans les 50, grâce évidemment à Max Ophuls.
Comme c'était long, une éternité.
Je me demandais pourquoi je vivais. Je ne voyais que votre visage.
Vous ne pourriez pas parler plus simplement.
Que voulez-vous que je vous dise?
Ma phrase préférée, celle que vous dites si bien. Je ne vous aime pas.
Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Oh, mes boucles d'oreilles. Raphaël, vous étiez toujours près de moi. C'était mon seul réconfort. Je suis décidée à les porter toujours.
Comment ferez-vous?
Vous êtes un enfant. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas.
Admirable dialogue de votre parrain, Entebbe, Marcel Achard, Je ne vous aime pas, c'est Louise face à Donati, Daniel Darieux face à Vittorio De Sica dans Madame 2. Et c'est vrai que dans cette époque, Daniel Darieux va être assez spécialisé dans les rôles de menteuse, de femme infidèle. Elle ment et dit toujours « je ne sais pas mentir » et elle a toujours de très bonnes raisons de me mentir, notamment dans Madame 2. Elle ment parce qu'elle est dans une dépendance économique qui l'oblige à mentir, et elle joue quelque chose qui est très très fort et très étonnant. Ophuls demande à Darieux d'incarner le vide, l'inexistence. Elle dirait, il ne s'agit pas de remplir le vide, il s'agit de l'incarner. Comment elle va faire ça, Daniel Darieux, Clara Laurent?
Elle va faire ça avec son génie d'actrice, elle va faire ça avec... J'aurais beaucoup de mal à dire comment elle le fait, parce qu'elle est, c'est une actrice exceptionnelle et elle avait ses secrets. Ce qui est vrai, c'est que Max Ophuls en fait voulait peindre une société vide. C'est-à-dire, c'est pas, on a dit souvent, elle joue le rôle d'une coquette futile, mais c'est toute cette société finalement qui est futile, cette espèce d'aristocratie de milieu de diplomates qui traîne effectivement une existence dans des bals, dans des réceptions et qui se croit le sommet de l'humanité, comme disait Max Ophuls, alors qu'il n'était rien. Et finalement, le personnage de Louise évolue dans ce monde-là, et elle est gagnée par la profondeur, c'est-à-dire qu'en s'ouvrant à l'amour, elle va effectivement devenir une femme extrêmement profonde. Et c'est ça aussi qui est merveilleux dans ce film, c'est de voir son évolution de la superficialité à la profondeur.
Alors Max Ophuls va développer une passion cinématographique incroyable pour Daniel Darieux. Il voudra lui faire tout jouer. C'est elle qui aurait dû jouer Lola Montes si les producteurs n'avaient pas insisté pour avoir Martine Carol à la place. Quelle est cette relation étrange et passionnante qu'il y a entre Ophuls et Darieux, Entebbe?
Bah, il a trouvé la bonne corde à faire vibrer. Et Darieux, par la suite, dira à chaque fois qu'elle se trouvait avec un metteur en scène qui savait pas ce qu'il voulait ou qu'il a laissé un peu faire toute seule son métier, elle se disait dans sa tête, mais comment est-ce que Max Ophuls aurait fait?
Hein, comme Billy Wilder quand il se demande qu'aurait fait Lubitsch.
Bah oui, Lubitsch et Ophuls, ils ont des choses en commun. Et ce qui est extraordinaire dans Madame 2, c'est que, je ne dois pas reciter mon parrain, mais on disait qu'ils faisaient des mots d'auteur. Mais en fait, pas du tout. Et c'est dans la bouche, en fait, de Charles Boyer, qui est le personnage le plus lucide, finalement, du film.
Le mari.
Il lui fait dire, ça n'est que superficiellement que nous sommes superficiels. Et ça, c'est une définition de ce que sera la Daniel Darieux des années 50. C'est-à-dire que on lui fait jouer des rôles qui auront beau être stéréotypés en tant que personnage, elle va creuser avec l'aide évidemment des scénaristes et des metteurs en scène et des chefs opérateurs et des ingénieurs du son qui savent enregistrer sa voix, mais elle va montrer qu'elle n'était pas superficielle.
Elle dira oui, Clara Laurent.
Oui, et puis Max Ophuls disait aussi de Darieux qu'elle était une idéale éponge intellectuelle qui savait s'imbiber de ses convictions et les déverser après dans la scène avec une précision de mathématicien. Donc en fait, elle avait aussi ce jeu d'une très grande précision et qui effectivement s'accordait à ce que Max Ophuls lui demandait.
C'est là qu'on rejoint le côté musical, je pense.
C'est un joli portrait, mais je ne vois pas ça dans mon entourage.
Moi non plus.
Moi, j'aime mieux les rousses.
Oh, Dieu du ciel! Tu n'as pas vu Delphine ce matin?
Ah, non, madame.
Oh, je suis sûre qu'elle a oublié d'aller chercher Boubou. Vous ne voulez pas y aller, monsieur Maxence?
Je peux pas. On part en manœuvre et je suis déjà en retard.
Si j'y vais, je peux pas mettre la table.
Excusez-moi.
Je vous en prie.
Salut. Salut, Pépé.
Salut.
Salut.
Oh. Vous ne voulez pas y aller, messieurs? L'école est à deux pas, derrière la place.
Oh, on veut bien,
hein? Oui, on veut bien.
Oh, vous êtes gentil. Vous demanderez Boubou.
Qui ça?
Boubou, c'est mon fils, mon petit dernier. Oh, excusez-moi, mais je ne peux jamais sortir. C'est bien simple, je vis séquestrée dans cet aquarium. Moi qui étais faite pour vivre au grand air, sur une plage, au bord du Pacifique. Écouter de la musique douce en lisant des poèmes.
Yvonne, je n'ai plus de colle.
Hein? Je t'ai lu un tube de colle en passant. Merci.
Mon fiancé avait un nom fort détestable et ce nom m'agaçait plus qu'il n'est supportable. Alors je l'ai quitté sans un mot, sans adieu. Il y aura 10 ans que j'ai brisé ce nœud. Je lui avais appris dans le plus doux moment que j'attendais de lui l'heureux événement qui anoblit la femme et enorgueillit l'homme, car Boubou s'annonçait pauvre petit bonhomme. C'était un beau jeune.
Daniel Dariot disait que Madame 2 resterait son film, hein, celui grâce auquel elle ne serait pas tout à fait oubliée. Mais il y aura quand même Les Demoiselles de Rochefort, hein, dans laquelle elle est la seule, rappelons-le, à chanter véritablement. Elle joue la mère des sœurs jumelles. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que quand on regarde sa filmographie détaillée, comme vous le faites, Clara Laurent, dans les années 60, il y a 21 films, des films qui ont souvent de grands succès commerciaux. Mais c'est vrai qu'on se souvient moins du Grabuge chez les veuves, de Patate, où des lions sont lâchés, que de des Demoiselles de Rochefort, qui reste le film phare et qui fait tout d'un coup à nouveau rentrer Daniel Darieux dans la modernité. Et rappelons-le, enfin on l'entend ici, elle joue une mère célibataire à répétition, en plus, qui n'en peut plus de rester seule comme ça, mais qui malgré tout veut maîtriser ses amours.
Clairement. Oui, qui veut maîtriser ses amours, qui est un petit peu coincé comme dans son aquarium, comme elle le dit, qui est le lieu centrifuge en fait du film. Tout le monde passe peu ou prou par ce lieu. Ce qui est étonnant quand on regarde le film, c'est un film de 67. Elle a quand même 50 ans. Elle fait 10 ans de moins. Elle a cette ligne gracieuse et puis cette façon de marcher. On a l'impression qu'elle danse, qu'elle glisse. La première apparition, on a l'impression qu'elle est sur des patins à roulettes, tellement elle a effectivement cette espèce d'aisance corporelle. Et d'ailleurs, les personnages de Georges Chakiris et de son acolyte pensent qu'elle est la sœur, en fait, de ses filles. Donc elle a cette espèce de jeunesse comme ça que Demi a su mettre en lumière dans ce film.
Et en jouant une mère moderne, après la femme moderne, la mère moderne, c'est le premier film où elle joue la mère de Catherine Deneuve. Hein. La rencontre précédente, c'était sa tante, précisez-vous, dans L'homme à femme de Jacques Cornu. Gérard Cornu, scénario Alain Cavalier, précisons-le quand même. Elle sera la mère à répétition de Catherine Deneuve. Et c'est vrai qu'on peut faire des liens, des parallèles, Anne Thébine, entre une Daniel Dariot et une Catherine Deneuve. Hein.
Oui, elles ont chacune représenté une icône de leur temps. Elles ont chacune très bien suggéré la longévité de leur carrière, avec des choix toujours plus judicieux, traverser des tunnels et toujours se relever de ces traversées du désert. Une chose qui me frappe aussi en l'écoutant chanter là, en 67, et après l'avoir écouté en 31 dans le bal.
Elle a une voix beaucoup plus jeune en 67 qu'en 31.
Absolument, c'est incroyable.
Elle chante dans les médiums aussi, c'est-à-dire qu'on la faisait beaucoup chanter très aiguë dans les années 30, ce qui l'énervait, et là, elle est peut-être dans une tessiture dans laquelle elle est plus à l'aise.
Oui, et elle a ce fameux naturel qu'on louait au début de sa carrière, et qui pouvait sembler fabriqué, en plus avec un maquillage très... très marqué quand même, les yeux à la Dario, c'est un maquillage, les sourcils qui sont juste des traits, les cils très très allongés, le rimel qui allonge les yeux, etc. Et puis tout d'un coup, mais ce qui frappe aussi quand on entend ça, comme quand on voit d'ailleurs Deneuve aujourd'hui, c'est que tout d'un coup il y a une justesse de que ce soit dans l'extrême rapidité staccato du dialogue ou dans la mélancolie qui est absolument qui est prodigieuse. Il y a une sorte de virtuosité, mais qui n'est jamais virtuose pour elle-même, qui est toujours au service des personnages et des metteurs en scène.
Et Catherine Deneuve dira de Daniel Dariot que c'est finalement la femme qui lui a appris que ce n'était pas très grave de vieillir et qu'au contraire cela pouvait être assez beau.
Il faut absolument que je te fasse une confidence, Susan. Tu es la seule en qui je peux avoir confiance.
J'arrive, mamie.
Mais ton père n'avait plus d'argent.
Ça, c'est très important, raconte-moi.
Voilà, j'ai voulu lui donner, en reconnaissance de notre hébergement, des actions que je possédais de ton grand-père, le colonel. Il les a refusées. Il m'a dit, gardez votre argent, il ne serait pas suffisant pour me sauver de la faillite. Alors j'ai gardé mes actions. Pas pour longtemps. Parce qu'on me les a volées il y a 2 jours.
Volées ?
On a drogué mon porto. Mais un petit verre de porto après le dîner, ça fait du bien à mes douleurs. On est entré dans ma chambre. On m'a volé. Quelqu'un qui connaissait la cachette.
Sous ton oreiller ?
Mais comment le sais-tu ?
Mais mamie, tout le monde le sait.
Tout le monde ? Mais quelle bande de voleurs ! Au voleur ! À l'assassin ! Au voleur ! Au voleur !
Mamie,
oh ! Au voleur !
Qu'est-ce qui t'arrive ?
arrive? Mais tu as perdu la tête!
Mamie vient de m'apprendre qu'on lui a volé ses titres il y a 2 jours.
Ses titres? Ah, la menteuse! Elle les a vendus en cachette et elle ne veut pas me donner ma part! Ma part! Ma part!
Mais je te dis qu'on me les a volés! Mais enfin, maman, c'est impossible! Tu ne quittes jamais ta chambre!
C'est pas vrai, j'entends bouger toutes les nuits! J'entends craquer le parquet!
Mais tu ne dors donc jamais?
Jamais! J'écoute! Je passe la nuit à écouter. Et si les petites n'étaient pas là, je vous dirais bien ce qu'il m'est arrivé d'entendre.
Oh, ma pauvre Augustine.
Ah, mais je sais. C'est toi, Gabi, qui a volé les titres de maman pour les offrir à je ne sais qui. Rends-les-moi.
Mais...
Rends-les-moi.
Lâche-moi,
Rends-les-moi.
Alors, je vous avouerai que c'est un film que je n'aime pas beaucoup. C'est 8 femmes de François Ozon. Mais cette scène est assez frappante parce qu'elle réunit un peu toute la filmographie de Daniel Darieux. Elle est alcoolique, elle le dit, comme dans Une chambre en ville, hein, de Jacques Demy. Elle va se révéler être une empoisonneuse, comme dans La vérité sur Bébé d'Ange. Elle est menteuse, comme dans Madame 2. Elle fait des crises de nerfs, comme dans toute sa filmographie. Et on est dans ce moment qui commence dans les années 80 et qui vont jusqu'à son dernier film en 2010, où Daniel Darieux, c'est le cinéma français. C'est-à-dire que quand on fait tourner Daniel Darieux, selon ce qu'on aime tel ou tel film qu'elle a fait, on va en faire une sorte d'autocitation vivante, Clara Laurent.
Oui, François Ozon, lorsqu'il l'a choisie pour faire être la doyenne en fait des 8 stars qu'il a choisies pour son film, l'a choisie pas par hasard. Il va effectivement puiser dans sa filmographie tout ce qu'il va pouvoir remplir effectivement le personnage de Mamie. Donc c'est, vous l'avez dit, elle a tué son mari en plus. Donc comme dans La vérité sur Bébé d'Ange, l'histoire du Porto aussi, c'est parce que Daniel Darieux elle-même ne dédaignait pas un petit verre de Porto ou de whisky tous les jours. C'est sûr qu'effectivement, Ozon est allé chercher vraiment dans toute la filmographie de Darieux. D'autres réalisateurs vont chercher des choses plus restreintes en fait dans la filmographie de Darieux.
Comment vous voyez les dernières années de ces 80 ans de carrière tout à fait étonnante, Ntebin?
Mais écoutez, en fait, comme Darieux, c'est une sorte de phénomène. C'est un phénomène qui reproduit, mais qui amplifie ce qui existe pour tout ce qu'on appelle les stars. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une star quand elle accepte de jouer dans un film? C'est qu'elle trimballe, si j'ose dire, avec elle, la mémoire de tout ce qui a fait d'elle une star dans l'esprit, non seulement des équipes de tournage, mais du public, des journalistes, de tout le monde. Et ce qui est un peu particulier dans 8 femmes, c'est que c'est fait consciemment. Mais de toute façon, Darieux transporte ça en elle, qu'elle le veuille ou non. Il y a ces 70 ou 80 ans d'histoire du cinéma et d'amour aussi des metteurs en scène pour Darieux, d'admiration de ses partenaires, d'adulation du public, qui fait que ça transparaît quoi qu'elle fasse. Elle fait un battement de paupières, elle prononce une chose, elle se déplace et on va dire « Ah, ça me rappelle telle image que j'ai connue, que j'écoute. » En plus, c'est vrai que physiquement, elle est extraordinaire. Faut pas dire qu'elle est restée jeune. Elle a son âge, mais elle l'assume et elle assume avec tout ce qui a fait sa gloire et son passé d'actrice, de femme. Alors que Garbeau s'est arrêté en 1942. Hein, le mystère s'est arrêté. Alors que le mystère Darieux a continué pendant encore un demi-siècle.
Il faut avoir une certaine audace pour continuer à avoir un corps burlesque quand on est une vieille dame. Hein. Je me souviens de la pochetronne complètement sidérante de Corps et Biens de Benoît Jacquot en 1986. Elle a 75 ans et c'est la parfaite vieille dame indigne. Merci beaucoup Clara Laurent. Votre biographie Daniel Darieux, une femme moderne, est parue chez Hors Collection et le public pourra vous rencontrer en janvier à la Cinémathèque de Nice. Vous allez y présenter certaines des séances de la rétrospective consacrée à Daniel Darieux, après celle de la Cinémathèque de Toulouse qui se poursuit jusqu'au 13 décembre, celle consacrée à Max Ophuls avec et sans Darieux à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 31 décembre. Et puis je rappelle que La Ronde en copie restaurée et même en 35 mm, ça devient tellement exceptionnel qu'il faut le préciser. Jeunes auditeurs qui n'avaient jamais vu une copie en 35 mm, allez voir La Ronde au cinéma, c'est en salle depuis mercredi dernier. La Grande Table consacrera d'ailleurs une émission à Ophuls, ça sera le 20 décembre. Et puis pour en savoir plus sur Daniel Darieux sous l'occupation, On lira avec grand profit le texte que Jean-Olé Laprune lui consacre dans le dossier sur la Continentale qu'a dirigé Hubert Niogré pour le dernier numéro de Positif. Les Cahiers du cinéma de leur côté publient une très belle lettre d'adieu de Paul Vecchiali qui adorait Daniel Darieux et à qui il avait fait jouer sa mère dans En haut des marches. Mercredi dernier sont sortis également deux films que nous vous recommandons tout particulièrement à plan large. Makala d'Emmanuel Gras, on l'avait reçu à Cannes pour ce très beau tout à fait saisissant documentaire sur les routes du Katanga qui suit les pas d'un charbonnier moderne Sisyphe, et puis aussi Un homme intègre du cinéaste iranien Mohamed Rasoulov, actuellement interdit de sortie dans son pays depuis qu'on lui a confisqué son passeport. Rasoulov, c'est un ami et complice de Jafar Panahi, et il faut vraiment voir cette dénonciation implacable de la corruption généralisée en Iran pour comprendre combien ce cinéaste ne se laissera jamais intimider par les très byzantines persécutions politiques du régime des Mollahs. En 1974, on pouvait voir Daniel Darieux dans une curiosité espagnole, érotico-humoristique, au titre tout à fait baroque, Rose Rouge et Piment Vert. Au même moment, sortait dans les salles un musical autrement épicé.
Simple feeling, I thought I knew you, but I didn't know you at all. Trapped inside your world of worry, you miss so much when you always hurry. Well, slow down, baby, you'll only get hurt if you fall. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive. But you're working so hard that you don't even know you're alive. Working so hard to be somebody special, not working just to survive. Well, you're special to me, babe, and what I don't see, babe, is where you go once you arrive. Where we go once we arrive.
Damn all. Voilà, plan large très musical aujourd'hui sur France Culture. Les fans du film, et ils sont nombreux, j'en suis, se souviennent avec émotion de cette séquence, la séquence d'audition de Phoenix, alias Jessica Harper, dans Phantom of the Paradise, le premier grand film, à mon sens, de Brian De Palma. C'était donc en 1974. Les éditions Carlotta ressortent en coffret 6 de ces films, réalisés entre 1974 et 1984, une décennie qui va de Phantom of the Paradise, donc à Body Double, en passant par Fury, Pulsion, Blowout et Scarface. Le tout accompagné par la réédition augmentée d'un livre qui était épuisé depuis longtemps, le livre d'entretien que Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud avaient consacré à Brian De Palma au début des années 2000, au moment où avait lieu la grande rétrospective Brian De Palma au Centre Pompidou. Le cinéaste qu'on voit dans ces six films, ce n'est pas encore le De Palma des blockbusters des années 80 et 90, que seront les Incorruptibles ou Mission Impossible. C'est encore quelqu'un qui reste très mauvais genre, pas toujours très bien considéré par la critique, qui voit en lui un maniériste dans le mauvais sens du terme, un pasticheur du cinéma de Hitchcock. Comment est-ce qu'on revoit ces films aujourd'hui, Ntebin, à la lumière surtout des propos de Brian De Palma sur son propre cinéma qu'il analyse très précisément?
Mais oui, mais justement, ce livre contribue à rendre De Palma très attachant. C'est un créateur singulier qui n'a jamais été reconnu comme un auteur personnel. C'est-à-dire que ce qu'on trouvait bien dans ses films, on disait que c'était emprunté à Hitchcock ou à d'autres, au cinéma classique hollywoodien, ou à la mode de l'époque, le gore, le film, les ralentis à la Peckinpah, que sais-je. Et en fait, le véritable événement de ce projet éditorial, c'est la réédition, mais surtout la réédition augmentée de ce livre
d'entretien.
Oui, il y a eu des films, et De Palma a évolué. Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, parce que les deux auteurs, Laurent Vachaud et Samuel Blumenfeld, racontent comment ils ont traqué, pisté De Palma tout autour du monde pour réaliser les entretiens de ce film.
C'est pas quelqu'un qui aime beaucoup ni les journalistes, ni les critiques.
Non, mais là, il a quand même fait une exception et de taille. Enfin, ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. C'est ça qui est aussi intéressant, surtout pour vous ou moi, Antoine, qui interviewons beaucoup de gens. On parle rarement des affres de ce que c'est nous parfois, pouvons parfois.
C'est parfois compliqué de parler à Brian De Palma.
Et donc là, on s'identifie évidemment nous deux beaucoup aux pérégrinations de ces deux intervieweurs acharnés qui passent leur temps à le manquer dans des endroits où ils ont rendez-vous, etc. Mais ce qui est formidable, c'est que vous savez, il y a des livres comme ça canoniques. Il y a le Hitchcock par Truffaut, il y a le Haneke par Haneke dont on a parlé dans cette émission, mais qui sont des leçons de cinéma. Alors que là, c'est une leçon humaine. C'est-à-dire que De Palma livre énormément de choses sur la façon dont il a fait ses films, mais surtout sur lui-même, sur ce qu'il a mis de lui-même et d'autobiographique dans ses films les plus outrés, les plus considérés comme manquant totalement de crédibilité. Eh ben, De Palma, il avoue, il dit « Non, mais là, c'est moi. »
Alors, on va prendre un exemple extrait un peu long, alors on va vite parler dessus.
David, look, there's someone on the bridge.
Oh, let's not worry about that.
He's staring right at us.
Who cares?
I care.
Betsy.
I don't want to stay here anymore. Let's go.
Yeah, okay.
What is he doing?
I don't know.
What is he, a peeping Tom or something?
Oh, who cares? Come on, let's walk down.
Alors les fans de Brian De Palma auront reconnu la grande séquence du début de Blowout. C'est John Travolta, Jack Terry qui enregistre des sons dans la nature. Et puis une voiture va arriver, un coup de feu, c'est l'accident. Et alors cette scène qu'on pourrait croire, là encore un simple décalque de Blow Up ou sur le plan sonore, et résonne en fait de manière très intime dans la vie de Brian De Palma.
Absolument, parce que Brian De Palma raconte, ça avait été la révélation de la première édition de ce livre, que quand il était petit, il a été responsable du divorce de ses parents parce qu'il a été mettre son père sur écoute alors qu'il trompait sa mère. Sur l'instigation de sa mère. Et donc cet ingénieur du son qui va prendre des sons comme ça et qui se trouve témoin d'un assassinat dans Blowout est extrêmement personnel. C'est un alter ego de Brian De Palma. Et je voudrais vous citer une phrase qu'il dit dans ce livre, parce que Brian De Palma a le chic pour nous rendre des choses évidentes, mais une fois qu'on les a entendues par lui, on n'y avait jamais pensé avant. Il dit le plan en caméra subjective, c'est-à-dire la caméra à la place du personnage, est la figure la plus importante de la grammaire cinématographique. Il permet en effet au public de découvrir une information en même temps que le personnage du film, ce qui n'est possible qu'au cinéma. On m'a souvent dit que j'étais un voyeur parce que je faisais un grand usage de cette technique, mais on oublie que le voyeurisme est une composante essentielle du cinéma.
Oui, c'est un bon résumé du cinéma de Brian De Palma, d'autant que On constate dans ses propos, parfois tenus sur des films réalisés il y a très longtemps, que le moindre mouvement de caméra, le moindre travelling, ces mouvements de grue extrêmement spectaculaires qu'il y a chez lui, sont extrêmement pensés.
Ah oui, De Palma, c'est pensé, mais ce ne sont jamais des démonstrations. Il y a une chose qu'on ne cesse de redécouvrir chez De Palma aussi, c'est le côté ludique de son cinéma. De Palma, pour reprendre la citation d'Orson Welles, il prend le cinéma comme un train électrique, mais il va apprendre à le maîtriser et à lui donner des ornements et des perfections jusqu'à des expérimentations, jusqu'à la fin de sa carrière. Il se fiche de Hollywood, il va faire ses films en France, à Paris, en Europe, mais alors que tous ses copains de la même époque ont créé des empires, Spielberg, Lucas, Scorsese, Coppola, et ben lui, son empire, il le dit lui-même, c'est son cinéma.
Merci beaucoup Ntebin. Le coffret livre DVD Brian De Palma est édité chez Carlotta. Je signale également la sortie en DVD chez SND d'une curiosité qui elle aussi a ses grands fans, La planète des vampires de Mario Bava. Mauvais genre reviendra prochainement sur cette sortie. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Anthony Thomasson. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan large reviendra sur les débuts hollywoodiens d'Alfred Hitchcock, sous les auspices et le contrôle du nabab surpuissant qu'était David O. Selznick, autour de quatre films, Rebecca, La maison du docteur Edwards, Les enchaînés et Le procès Paradine. Nous serons avec l'historien du cinéma Jean-Loup Bourget, le cinéaste Nicolas Saada et le critique et chroniqueur de Plan large Mathieu Macheret. Vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko.